Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque cinéma consacré ce soir au film de la quinzaine avec les vignerons de la critique. Pour parler des vignes de Clapy, j'ai nommé Sophie Avon. De Sud-Ouest, Michel Simon de Positif, Eric Neuhoff du Figaro et avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. Donc on parle pas simplement des vignes de Clapy, je vous rassure. On parlera également de HHHH, de La Momie, grand moment, du jour d'après, donc Sang Soo, de Chaos, de Fabrice Gobert, de Nos Patriotes, et puis du vénérable W. Dans le courrier de la semaine, eh bien, vous n'êtes pas tendre. Pour Le Rodin de Jacques Doyon, Guy Angela de Mélan dans l'Isère. Quel ennui, ne se passe rien, on n'apprend rien. Sur Rodin, les scènes s'étirent, Lindon marmonne dans sa barbe, un film insipide. Jérôme Duvivier juge qu'une succession de beaux plans ne font pas un grand film. Le scénario est d'une indigence crasse et les acteurs vraiment pas au sommet de leur art, avec un Vincent Lindon inaudible, en résumé beau et raté. Marc Fournier d'Avignon félicite Eric d'avoir dit du film de Doyon, on ne comprend rien de ce qu'ils disent, on a l'impression que c'est le député Jean Lassalle qui est en train de sculpter Balzac, et quand on comprend, c'est encore pire. Bruno Séverin confirme ce qu'a dit une spectatrice du studio l'autre jour, Sacha Guitry. Rodin est effectivement diffusé en version totalement sous-titrée en français. C'est le cas, nous dit-il, au 5 Comartin à Paris où je l'ai vu. Je précise que malgré cela, je n'ai rien compris à ce qu'a voulu faire Doyon.
Bientôt en braille.
Martine Chabot a vu aussi Rodin en copie sous-titrée. Là, c'était au cinéma Le Balzac et j'ai reçu de partout des mails qui vont dans ce sens. Donc aujourd'hui, Le Rodin de Doyon est sous-titré comme un film de Terrence Malick. Pas tendre non plus les auditeurs avec L'Amant double de François Ozon. Yann Edvénard, c'est en dessous d'un bon Chabrol. Alors Hitchcock, De Palma, Cronenberg, on n'y pense même pas. Thierry Bruyère trouve que L'Amant double est un pseudo-thriller érotique mille fois vu. Christelle Bisio s'énerve. Ozon devrait cesser d'oser. Ce film n'a ni queue ni tête. Si, si, alors là aussi.
Là au moins.
Il y a même
dans
deux.
Le souvenir qu'on en a, oui, il y a de la queue, oui, ça. Et de la tête, enfin aussi.
Oui, des têtes.
Ozon a réussi un chef-d'œuvre de voyeurisme, excusez-nous, Christelle Bisio. Adrien Zoltanovic ajoute que Marine Wacht joue à peu près aussi juste que ma concierge quand elle me dit que j'ai bonne mine en décembre à l'approche des étrennes. En revanche, pour Patrice Piche de Toulouse, Marine Wacht est vraiment remarquable, étonnante. Elle allie beauté mystérieuse et étrangeté, un peu comme Charlotte Rampling. Marion Sibla me répond tout à fait à juste titre que, puisque j'avais affirmé qu'aucun film n'avait jamais évoqué la gémellité parasite ou cannibale, eh ben si, Sœur de sang de Palma et Faux semblant précisément de Cronenberg évoquent ce type de rapport entre jumeaux et sacrément bien. Enfin, Pensons le bec de Michel Simon. Alors là, j'ai un flot de mails et de lettres. Pascal d'Amsterdam, je vous écris pour vous dire adieu. Ainsi qu'à vos collègues. Michel Simon a raconté très clairement la fin du film de Fatih Akin, ce que je trouve impardonnable. C'est vraiment minable. Michel Simon, Michel Simon est un récidiviste dangereux, ajoute Damien. Il a révélé la fin de In the Fed. Non, monsieur Simon, les auditeurs n'ont pas des mémoires de poisson rouge. Vous n'avez pas le droit d'annoncer la fin d'un film, ajoute Mathieu. C'est lamentable d'user de votre avantage de tout voir en avant-première pour pourrir les séances de vos auditeurs. Enfin, Patrick Dezève de Bruxelles suggère qu'en début d'émission, je pose la question fin de film ou gage, et on pourrait choisir au choix dans les gages. Allez voir Les Tuches 3, chroniquer pendant un an tous les films de Kev Adams, dire 10 fois le nom d'Apichakpong Veracetakul à l'envers. Et en cas de récidive, nous dit Patrick Dezève, le coupable serait réincarné en figurant dans le film Xanadu. Voilà, vous savez tout et on commence avec ce qui nous lie ici au masque. C'est le nouveau film et probable succès de Cédric Clapiche, dont le dernier film Casse-tête chinois n'était pas un chef-d'œuvre, mais remonte quand même à 2013, le temps passe. Et c'est avec Pio Marmaille, Anna Girardot, François Civil, autrement dit Jean, Juliette et Jérémy, les trois se retrouvent en Bourgogne, au chevet de leur père mourant, sur son exploitation viticole, que Juliette entretient et que Jean, l'aîné, tout juste débarqué d'Australie, est censé reprendre, n'étaient les droits de succession pharaoniques. D'où la question que se pose la fratrie, faut-il ou non vendre le domaine ? Un dilemme qui n'est pas sans rappeler, en tout cas pour moi, tellement la série télé de Le sang de la vigne, que souvent, en voyant le film, je me disais, mais il est où Arditi ? Je cherchais les moments que je n'ai pas trouvés. Je précise également que le film est co-scénarisé par un très bon écrivain, qui est Santiago Amigorena. Je vais évidemment commencer à demander à la Bordelaise ce qu'elle pense de ce Bourgogne-là.
Je ne suis pas fan de ce Bourgogne-là. Je trouve que Cédric Clapiche a des qualités et du talent. Je trouve qu'il est très bon dans les... Curieusement, tout à coup, ça m'est apparu en voyant ce film, qu'il savait bien filmer les groupes, qu'il savait bien filmer les scènes de joie, les scènes de quand ils font les dîners après les vendanges. Il y a quelque chose qui, tout à coup, se passe, qui circule, mais qui est du domaine de la comédie. Chaque fois qu'il essaie de faire de l'introspection, qu'il essaie d'être dans la gravité, je trouve que ça marche pas. Je trouve que Jean qui se parle à lui-même enfant, ça marche pas très bien. Je trouve que on l'a quand même beaucoup vu. J'ai quand même l'impression d'avoir vu ce film des milliers de fois. La vinification comme métaphore.
Parce que c'est devenu un genre de cinéma. Il y a le thriller, le polar, il y a le film de
vigne. C'est vrai que là où le film est intéressant, c'est qu'il est relativement documenté sur la vinification. Mais en même temps, cette métaphore poussée de la, on voit bien ce qu'il veut faire dire à son film, c'est-à-dire que la famille, l'amour, l'amour de la terre, l'amour des autres, et soi-même, on doit s'accoucher soi-même, on doit se décanter soi-même, enfin, tout ça, c'est tellement lisible, c'est tellement visible, c'est tellement... que franchement, je trouve ça très pâteau, quoi.
Il y en avait un l'été dernier avec Gérard Lanvin, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, il était pire.
Alors qu'il était un sommet.
Il était pire. Non, alors celui-là est quand même meilleur, mais je trouve quand même qu'on a l'impression d'avoir vu ce film 4000 fois. Je trouve aussi que, moi je parle assez peu des jeux des acteurs, là je dois dire que Pio Marmaille, je pense qu'il faut qu'il arrête un peu ce genre de rôle.
On va le voir beaucoup ce soir. Hein.
Alors on va le voir dans Chaos, et pour le coup c'est mal trouvé parce qu'il n'a pas tout à fait le même genre de rôle, il est beaucoup plus antipathique. Mais en revanche, là, je trouve qu'il a beaucoup fait ce genre de personnage qui va du côté de la vie et qui en même temps est rattrapé par sa mélancolie. Il faut qu'il change un peu de registre. En revanche, j'ai été vraiment épatée par ce que fait François Civil. Je trouve que vraiment, c'est un très, très, très bon jeune comédien. Et voilà, je tenais à le souligner.
Michel ?
Dans le paysage sinistré de la comédie populaire française...
Ah commence pas comme ça.
Mais si. Je vois tellement de... On en parle souvent, masquer la plume, mal éclairé, mal joué, vulgaire, lourdingue, etc. Je trouve que ce que Clapiche essaye de faire, il ne réussit pas toujours, c'est une comédie populaire française qui soit d'une certaine tenue. Et je trouve que ce film est vraiment réussi. Il est réussi d'abord parce que le handicap du film sur la paysannerie, c'est vrai que tout le temps, on a vraiment des clichés, etc. Ce n'est pas du tout le
cas
ici.
On ne dit plus la paysannerie. Hein.
Oui, enfin, si, c'est fini, il y a des films paysans.
Pas depuis quelques siècles.
Il y a eu très peu d'exceptions. Il y a eu Goupil-Marouge. Il y a un petit paysan qu'on va voir bientôt, qui était montré à Cannes, qui est un très joli film. Donc je trouve que ce film est vraiment réussi. Je trouve que la rencontre, à nouveau, avec Santiago Amigorena, ils avaient fait ensemble Le Péril Jeune. C'est son premier film, je crois. Donc je trouve que c'est plutôt un bon Clapiche. Et je suis comme Sophie, c'est-à-dire je trouve... Par exemple, il y a une scène avec François Civil où il n'arrive pas à terminer ses phrases avec son beau-père, qui est une sorte de magouilleur qui essaye de récupérer une partie de la propriété, etc. Et c'est une scène merveilleuse. C'est-à-dire qu'il y a une liberté chez Clapiche qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ce qui est rare, encore une fois, dans la comédie en France, que je trouve que le film mérite effectivement d'être vu pour ceux qui aiment ce genre de... Et en plus, il filme très bien des paysages, alors que c'est d'habitude un metteur en scène urbain. Il a fait des films merveilleux sur les jeunes en groupe. Et là aussi, il réussit par la vie de ce petit groupe familial à nous restituer quelque chose d'authentique.
Je te rassure, le film a très bien démarré, Eric.
Ben, il faudrait instaurer une loi qui interdirait les voix off dans les films, désormais. Ça, c'est plus possible, et surtout celle-là.
C'est pas ce qu'il y a de pire. Hein.
Oh, c'est pas ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus gênant dès le début, là, quand il regarde par la fenêtre en disant...
C'est pas rétroactif, on peut regarder Boulevard du Crépuscule, par exemple.
Non, mais à partir de maintenant.
Ah, d'accord, ok, très bien. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Il y a le Malik qui va arriver aussi, c'est pas mal.
Non, ce qu'il y a de mieux, c'est le titre, mais je suis pas sûr qu'ils aient fait exprès de mettre un jeu de mots sur ce qui nous lie et la lie. D'après ce que j'ai entendu, c'est bête. Et non, c'est un film pas antipathique, mais terriblement lourdeau. Le héros revient après 10 ans dans le domaine familial parce que son père est dans le coma à l'hôpital. Et une nuit, il est réveillé par son frère et sa sœur en larmes. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Même nous, on a compris.
Tout le monde a compris. Et tout est un petit peu comme ça. Tout est téléphoné. Il n'y a absolument aucune surprise. Il y a la visite au notaire, il y a les frères et sœurs qui s'engueulent, il y a le domaine qui va être trop cher, il y a le vilain beau-père qui veut racheter le domaine pour aider, mais il se gardera les meilleures parcelles, il y a la belle-mère qui est tout le temps sur le dos des jeunes époux, et tout est comme ça, il n'y a pas une scène, la scène de Soulerie à la fin des Vendanges, où Anna Girardot est assez marrante en fille complètement bourrée qui n'arrive plus à prononcer les consonnes, mais il y a un épisode ridicule où elle flirte avec un vendangeur, et on n'en parle plus jamais, on se demande à quoi ça sert. Et le film se déroule.
S'il revient à la saison suivante.
Oui, c'est ça. Ah ouais,
c'est
un clin d'œil.
C'est le propre du flirt.
Oui, mais enfin.
Ils se sont engueulés avant.
D'ailleurs, c'est un film.
Ce qui se passe dans les vendanges reste dans les vendanges.
Et le héros passe son temps au téléphone avec son portable, avec la mère de son fils qui est restée en Australie. Alors, mais on a presque envie de faire comme Michel et de raconter la fin, mais il n'y en a pas. Et c'est un problème. C'est qu'on ne sent absolument pas la durée. Si on ne regardait pas les feuilles jaunir un peu, on ne voit pas ce qui leur arrive, ça ne progresse pas. On ne sait pas si on est au mois d'août, d'avril, ce qu'ils ont fait.
Les vendanges quand même.
Les vendanges, hein.
Oui, mais à part ça, c'est le coup de mou, les vendanges, si on peut dire. Voilà. Xavier. Mais enfin, ce n'est pas déshonorant, c'est un feuilleton télévisé.
Moi, je trouve absolument.
Nous ne sommes pas revenus sur l'information principale et capitale de la soirée. Jérôme Garcin regarde Le Sang de la Vigne avec Pierre Arditi le samedi soir sur France 3. On va t'offrir des DVD. Non, mais... Tu sais, qui se glissent sur les petites galettes comme ça, très pratiques, qui permettent de revoir ou des séries plus intéressantes ou des films. Parce que là, tu m'inquiètes quand même. Ceci mis à part, ta comparaison avec la télé est tout à fait juste parce que moi, ça m'a ramené encore un peu plus loin les sagas d'été avec Annie Girardot, le Château des
avec
Oliviers.
Fanny Ardant.
Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la fin, cette nouvelle vengeance avec le retour de Marwan, ce serait une deuxième saison possible. C'est-à-dire qu'on a quand même un pilote de série déjà vu, déjà écrit, typiquement pour l'été. Il y a les romans de la plage, il y a les séries de l'été quand même pour la télévision. C'est des chaussons. Alors, Michel adore le cinéma de chaussons. Là, c'est de la bonne charentaise quand même qui n'a plus d'âge. Vous avez vu la bande-annonce. Vous avez vu le film. Tout est dedans. J'ai rarement vu un film qui soit aussi peu surprenant par rapport à l'élément promotionnel de la bande-annonce. Je suis d'accord avec Sophie, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le registre déçoivent, et le seul qui s'en sort, ou en tout cas qu'on est extrait de la comédie, où il est généralement François Civil, pour lequel il est casté, qui est la comédie de John, le gaffeur, il est formidable, on le savait déjà, mais là il a vraiment un rôle à son étoffe, à son ampleur, mais ceci mis à part, c'est quand même le film. Alors, on n'est pas agressé. Ça, on peut pas dire ça, on n'est pas agressé. On regarde ça d'un œil tendre, on regrette d'être au cinéma et de pas être chez soi. Parce qu'on irait bien chercher un petit chocolat, un petit verre de chéri, quelque chose comme ça pour tenir la distance. Voilà, il nous manque le confort de son chez-soi.
C'est assez chocolat, toi. Hein.
Ah ouais, moi, le petit after eight là, avec un petit verre de chéri, je suis con.
Oh non, mais là,
ça se mange plus.
C'est Barbara Pym.
C'est délicieux.
Mais j'essaye, d'abord, c'est délicieux, on est bien d'accord, ce film. J'essaie de me mettre dans la temporalité de ce film.
Je suis sûr
qu'il y a quand même 35 ans.
Tu manges un after eight en buvant une suze, toi.
Alors, le soir, moi, c'est le chéri. J'adore le chéri.
Je t'en prie. Ce qui nous lit, c'est Cédric Clapiche. Oui, une réaction sur ce film dans le studio Charles Trenet. Bonsoir.
Bonsoir. Je trouve que vous êtes un peu sévère quand même avec ce film.
C'est le jeu de l'émission.
Oui, mais enfin...
Mais en fait, on l'adore.
Pour une fois, je serais de l'avis de Michel Simon.
Je me suis bien fait comprendre, alors.
Je suis de votre avis, justement. C'est un film qui est agréable quand même à voir. De parler, alors... Le côté vache, c'est de comparer ça au Sang de la Vigne. Alors là, c'est un peu vache parce que personne n'ira. Ce sont des trucs télévisés minables. Je crois que là, vous n'avez pas rendu un service.
Non, ce que je voulais dire plus généralement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, la vigne est devenue le décor.
Ah oui, bien sûr.
Presque tous les ans, au moins d'un ou deux films.
Ils sont souvent très mauvais.
Oui, c'est très mauvais. Oui. Mais là, la forme scénario, quand même, ça va au-dessus de ça, quand même. Le débat sur l'héritage... Bon,
on l'a déjà vu 100 fois.
On l'a peut-être vu 100 fois, mais il est quand même bien dessiné, quand même. Non, bon. C'est un film honnête. Vous quand même pas le...
Non, mais bravo d'avoir en tout cas essayé de le défendre.
Voilà.
C'est vrai. C'est un film tendre.
Allez, on retrouve, je le disais, Pio Marmaille, décidément sur tous les fronts. C'est vrai, dans un rôle très, très différent. Dans Chaos de Fabrice Gobert, la série Les Revenants, c'est lui, avec également Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Clotilde M. et Laurent Lafitte, c'est Antoine Lecomte, le patron à peine caricatural d'une chaîne info, c'est-à-dire méprisant et dominateur, jusqu'au jour, alors rêve ou réalité, où il se réveille du coma après qu'un de ses animateurs a tiré au revolver sur lui. Le comte était le boss, le voici devenu présentateur de météo, sous les ordres évidemment de ses anciens subordonnés, et ça dure quand même la bagatelle d'1h55, on est proche des 2h. Eric ?
Il faudrait instaurer une deuxième loi. Interdire les films où tout ce qu'on a vu, ça compte pas. C'est du beurre. Et là, c'en est encore un, comme le film de Ozon, comme un tas d'autres. Et c'est un film absolument inutile, ça. C'est...
Ouais, mais alors, du coup, tu enlèves aussi Lynch, hein?
Mais pourquoi pas? Non, mais là, c'est quand même balourd, balourd. Moi, je n'ai jamais vu Les Revenants, mais il est sûr que je ne regarderai jamais ce truc-là. Après, c'est ça. C'est... On se pince parce qu'on voit Lafitte. Alors, pour être plus crédible, il s'est fait la tête de Jean-Claude Bourret, barbu. Là, il ouvre des grands yeux à gars.
Personne ne sait qui est Jean-Claude Bourret.
La plupart du réculiste est là. Mais
c'est exprès. On sent qu'il n'est pas
sorti. C'est la première chaîne ou Antenne 2?
Il n'est pas sorti du coma. Hein. Là, il est tout le temps là. Il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Présenter la météo, il ne sait pas le faire. Toutes les scènes sont ratées. On oublie un tas de petites pistes. Au début, sa femme, avec laquelle il s'engueule, c'est la charmante Chiara Mastroianni, écrit un roman. On n'en reparle plus jamais. Mais quand même, comme c'est un film un petit peu prétentieux, il y a une affiche de l'enfer de Clouzot sur un mur à un moment donné, parce qu'on est un peu dans l'arrêt-essai. Et tout d'un coup, le type est dépressif, et un de ses copains lui dit « Viens, viens, on va se détendre ». Il l'entraîne dans des caves où des types font du fight club à main nue. Mais alors là, on atteint le sommet, et c'est vraiment un film à se taper la tête contre les murs. Ouais, voilà. J'en reste sans voix et j'ai presque envie de regarder la télévision après ça.
Xavier ?
Ben moi, j'aime bien. Je l'affirme et je l'assume complètement. C'est un film de genre, il n'y en a déjà pas tant que ça en France.
Mais quel genre ?
Quel
genre ?
Ah oui,
pseudo-fantastique, mes enfants. Ne jouez pas plus les imbéciles que vous ne l'êtes. Ça va devenir vertigineux à ce niveau-là. Je vais pas faire comme Michel Simon de dire dans le paysage sinistré du cinéma de genre français celui-ci. Non, non. Je trouve que Chaos vraiment fonctionne. C'est un parti pris, c'est un dispositif. Il y a dès le départ dans la mise en place de ce personnage, patron carnassier, virulent, écrasant tout le monde sur son passage, des petites choses accidentées dans la mise en scène, dans le récit qui montrent déjà qu'il va se passer quelque chose. Donc je trouve que c'est un film qui joue avec le spectateur, qui joue avec l'école, qui joue avec le principe de narration, la mise en scène intervient énormément, il y a le volte-face dont tu as parlé, c'est pas du tout la résolution à laquelle on s'attend, donc c'est un film qui ne va jamais dans le premier degré ou la facilité de ce qu'on pourrait imaginer à sa place, on joue constamment avec lui, on a de temps en temps un peu d'avance, un peu de retard sur le film, il y a un vrai travail sur la mise en scène et son principe de travail.
Il y a une grammaire,
mais Gobert la connaît bien, il la connaissait sur Simon Werner a disparu, qui était son premier film, qui était absolument magnifique, il le connaît très bien sur la série des Revenants, c'est un principe de point de vue, c'est un principe de mise à distance, c'est un principe ludique de jeu, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans son scope, dans la manière de travailler, dans l'apport de la lumière. Alors, ça ne dit pas grand-chose sur l'état du monde, je ne vais pas vous mentir, mais si on aime les jeux un peu cérébraux comme ça, le cinéma, vas-y, continue de lire pendant que je parle, ça ne me dérange pas du tout, c'est très agréable. On s'en met en confiance dans cette émission. Non, Jérôme Garcin, bouquin positif. Je tiens à le dire quand même. Il a raison, peut-être que c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, moi je soutiens complètement Chaos dans son ambition, dans sa proposition et aussi dans sa façon de faire, dans sa manière d'être, oui, dans sa manière
ça,
de faire du
ça,
cinéma.
Ça, tu l'as dit ça déjà, là tu te répètes là.
Voilà, et ben je le répète et je l'affirme.
Sophie ?
Non, c'est pas un film complètement inintéressant, mais je suis pas aussi enthousiaste que Xavier parce que je trouve que dans ce genre de film, c'est un film qui reste sur une ligne très sèche et ça retourne le gant. Voilà, c'est des films où. Enfin, c'est un film fantastique, en effet, hein, où on joue avec le réel. Le problème, c'est que ça reste quand même dans quelque chose de très... Ça s'éloigne jamais complètement de la réalité non plus, et du réalisme non plus. Donc on se contente de retourner les choses, et on reste comme ça dans cette ligne très très sèche, où il me semble qu'il y a un climat, mais où il n'y a pas d'univers. Et moi, ça me dérange, parce que soit à la fin, il y a un truc qui se passe, qui est vraiment très fort, et qui fait que ça se justifie. Là, le suspense était sec comme ça, et très lent, mais en même temps, la fin est tellement surprenante que...
Mais là, le cœur,
sauf que là,
comment
la fin, on ne peut pas le dire, mais bien sûr que je ne le dirai pas, mais elle est quand même... On va venir qu'elle va être évidemment décevante, et quand on n'a pas de fin à la hauteur, et bien dans ce cas, il faut de la profondeur. Et le film, il reste sur une ligne, mais il n'a pas de profondeur. Un peu comme l'étaient ces films de Dominique Moll à un moment, Lemming, c'était un peu ça. C'est-à-dire, ça restait comme ça sur une ligne, et il n'y avait pas la profondeur. Donc, il n'y a pas la métaphore, donc il n'y a pas la poésie, évidemment, celle de Lynch, ou même d'Ozon, même si Eric ne l'aime pas. Là, c'est des films où il y a une profondeur. Donc, on peut jouer dans le film de Lynch, il se réveille d'un rêve,
Du milieu de la télé, c'est quand même assez juste.
Oui, mais alors. Xavier, tu comprends bien que
j'ai dit que c'était juste.
Non, mais parce qu'il s'appuie.
En plus, tu m'écoutes pas, c'est pas la peine.
C'est un film de genre qui, en effet, essaie de dénoncer quelque chose. Mais c'est. Tu avoueras quand même que dire qu'il y a des cadres qui écrasent des faibles dans le monde du travail, que c'est difficile,
ça reste
un tout petit peu quand même anecdotique. Et du coup, je trouve que le suspense est démesuré par rapport à la souris dont il accouche. Voilà.
Chaos, c'est le film de Fabrice Gobert. H. Tu l'as vu, ça, Michel?
Absolument.
Comprenez.
Oh, hélas.
Comprenez, Himmler's Hirn heißt Heydrich. Le cerveau de Himmler s'appelle Heydrich. C'était en 2010, un roman, il faut dire, assez virtuose de Laurent Binet, qui lui avait valu le Goncourt du premier roman. Il racontait évidemment l'opération planifiée depuis Londres, exécutée par deux Tchécoslovaques pour assassiner à Prague en 1942 Reinhard Heydrich, qui était l'un des planificateurs de la solution finale. Et ce livre qui était un peu singulier parce que Binet intervenait dans son propre récit. C'est aujourd'hui un film de 2 heures. Alors là, quand on dit académique, le mot est faible. C'est signé Cédric Jiménez ou Jiménez, on dit
Jiménez.
Un film, je vais aller vite, où les nazis parlent anglais, où les uniformes sortent du pressing, et où, surtout, ça c'est vraiment le reproche que je fais à ce film, où la grande histoire, la terrible grande histoire, devient la matière d'un thriller, d'un banal thriller. Et je suis un peu troublé, parce que moi j'avais aimé ce roman, et j'ai vu que Binet avait beaucoup aimé ce film. Ah non, mais il s'est exprimé partout.
Il dira la vérité dans un an.
Je ne suis pas sûr. Et pour moi, le film est presque une contradiction par rapport à ce qu'il a voulu faire dans son livre, d'où la difficulté que j'ai à comprendre ce film de Jiménez. Donc, Michel.
Oui, moi je trouve effectivement le film est le contraire du livre. Le livre, sans arrêt, ouvre des perspectives, se pose des questions, etc. Là, c'est un bulldozer obscène. Je pense que c'est un film vraiment obscène. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de la violence, le nombre de séquences où on voit des nazis qui tirent à vue et des corps qui s'écroulent et la caméra qui se rapproche des corps mort, etc. C'est littéralement obscène. Il y a une obscénité de la violence, comme il y a une obscénité de la
à côté de Tarantino, du sexe. C'est sœur sourire. Hein.
C'est effrayant. En plus, tu as raison, il y a quelque chose qui me chaîne, c'est que maintenant, par exemple, depuis La danse avec les loups, les Indiens parlent le Sioux dans les films, ils parlent leur langue. Les Noirs parlent le Peul, c'est sous-titré. Mais on ne donne pas leur langue aux Européens. Donc il faut réclamer le droit à l'homme occidental d'avoir sa propre langue, c'est-à-dire les résistants tchèques devraient parler tchèque, et on ne peut plus accepter cette convention qui était à Hollywood, évidemment, Casablanca, etc., on sait très bien, aujourd'hui c'est pas possible, puisqu'on respecte les minorités et qu'on leur donne leur propre langue, respectons aussi les Allemands, les Tchèques, même les Allemands nazis, qu'ils parlent en allemand. Donc ça c'est également quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un film absolument lamentable, et effectivement on ne comprend pas tellement le soutien d'un écrivain à ce film qui dénature complètement son œuvre.
Oui, puis il s'en prenait dans son livre, je m'en souviens assez violemment d'ailleurs, et à mon avis excessivement aux bienveillantes de Jonathan Little, alors que ce film démontre exactement tout ce qu'il dénonçait chez Little. Oui, Michel.
Oui, je voudrais ajouter une chose, c'est que Truffaut a dit un jour, il faut s'habituer à l'idée qu'on va être jugé par des gens qui n'auront jamais vu un film de Murnau. Et apparemment, j'ai vu nulle part une référence à Fritz Lang, parce que ce sujet a été traité par Fritz Lang et Bertolt Brecht, c'était Les Bourreaux meurent aussi, qui est un classique du cinéma, mais 1000 fois supérieur à ce film nullissime.
Xavier.
Je pense que Laurent Binet, il a la reconnaissance du ventre, parce que c'est quand même la première fois qu'on adapte un roman pour ne pas du tout l'adapter. C'est-à-dire qu'en gros, Jiménez aurait fait un biopic, l'histoire racontée de ce bourreau, ça n'aurait strictement rien changé. Binet a eu du pot, il était comme au Monopoly sur la bonne case au bon moment, donc il a touché un chèque, mais un chèque pour rien, un chèque Pénélope Fillon, quoi. Enfin, un truc totalement... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le bouquin n'est jamais adapté, il suffit de cliquer sur la fiche Wikipédia de ce bourreau, et on peut faire le même scénario. Après, je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est un film d'une obscénité rare. noir, c'est un film qui cherche à esthétiser sans cesse son image et son sujet. Alors, la place de la caméra n'est pas une place idéologique, n'est pas une place politique, c'est une place esthétique. C'est ce qu'il y a de pire quand on fait ça. Donc, on a des plans absolument magnifiques. Il marche à un moment sur une grande place, enfin, un truc surélevé, la caméra est en dessous. Enfin, on a des choses extrêmement sophistiquées en termes de caméra qui va dans tous les recoins possibles imaginables pour faire de la belle image. Mais on s'en fout de la belle image quand on tourne comme ça des villages qui sont massacrés, des enfants qui sont tués, un garçonnet qui est obligé d'assister au meurtre de sa mère et à la torture de son père. C'est pas possible de faire de la belle image. C'est pas possible d'avoir ça comme réflexion. Et le pire, c'est que le film est ponctué par trois fois par ce qui va arriver au pauvre Heinrich, c'est-à-dire l'attentat. Et cet attentat, donc, pratiquement filmé en temps réel, mais séquencé en trois parties pour bien faire monter la pression comme ça de l'événement, est rythmé par une espèce de musique jouée à l'orgue électronique, on dirait l'ouverture du fantôme de l'opéra. C'est absolument pathétique, comme s'il y avait un suspense quelconque à voir un salaud de cette envergure mourir sous les balles des résistants. Enfin, je veux dire, le film est dans un mauvais goût, une faute de goût, mais sans cesse. Image, scénario, interprétation, la pauvre Damoun Pai qui joue son épouse.
J'ai pas cité Jason Clarke, donc, qui joue à Heinrich, et sur lequel, évidemment, Binet, alors là, il ne tarit pas d'éloge en disant qu'il est l'incarnation.
Mais l'époux joué par Rosamund Pike est une caricature de femme mentor qui aurait fait ce type-là, qui l'aurait sorti de parce qu'il avait été répudié par l'armée allemande, et donc qu'il aurait mis là où il est. Ce qui est quand même terrible, c'est que le seul personnage qu'on connaisse un tout petit peu, c'est lui. Elle est réduite quand même à peau de chagrin. Et les deux résistants tchécoslovaques sont totalement interchangeables, n'existent absolument pas, viennent pour faire le job de l'attentat et repartent pour mourir, quoi. Mais vraiment nul.
Eric.
Hartung, grosse nanar.
Si seulement. Mais si seulement,
sûr,
on se barrait.
Monsieur,
si seulement, on se barrait.
On peut le revoir.
Il y a des bons nanars.
Ah, mais celui-là, vu d'un certain œil, c'est encore une victime du nazisme.
Non, ça continue. On parlait de Xanadu tout à l'heure. Ça, c'est du bon nanar. Voilà. Tu vois?
Ah, non, mais c'est effrayant. Rien que le début où on voit l'attentat qui se prépare, la décapotable d'Heydrich qui arrive et la grenade qui est balancée et paf, arrêt sur image.
Oui, c'est insoutenable.
C'est insoutenable.
Suite au prochain numéro, ciel.
Et alors ensuite,
publicité, Peter.
On voit le malheureux qui est un peu brimé pendant son service militaire, alors ça va pas. Et ensuite, il drague une fiancée qui est blonde, évidemment. Et ils sont dans un train, ils regardent la campagne, et elle lui dit « Il y a quelqu'un qui pourrait redresser ce pays, tu devrais lire son livre. » Alors le gourdiflot dit « Quel livre ?» Mein Kampf, elle lui dit « Et tout est comme ça dans le film. Alors quand on est blessé, l'image devient floue, parce que c'est sûr, dès qu'on a une balle dans le ventre, ça se brouille.
Oui, il y a des caméras subjectives d'un mauvais goût.
Il y a des trucs comme ça, des ralentis. Quand il meurt, il dit à sa femme « Faisant de bons à rien. » Il est évident que quand on meurt, on pense à ça.
Sans jeu de mots, le bon à rien.
Et tout est comme ça, c'est grotesque, tout est mauvais, lourd, je ne sais pas ce que valait le roman, mais si on s'intéresse à la banalité du mal, ce n'est pas là-dedans qu'on va le trouver. Ce Jiménez avait fait la French, maintenant c'est vraiment la Deutsch qui nous a donné.
Joli.
Sophie.
Oui, je ne vais pas m'acharner, mais enfin, c'est vrai que c'est très mauvais. L'histoire, ce que prouve le film finalement, mais contre lui, c'est que l'histoire requiert un minimum de sobriété, et que c'est vrai que cette débauche d'effet de manche, c'est insupportable. Alors, Eric a parlé de l'arrêt sur image, il y a les ralentis, ça n'arrête pas. Il y a une nécessitation de la violence. Et en plus, le portrait d'Heydrich, il est, je trouve, lourdement psychologisant, quoi. Enfin, il essaie de nous montrer un personnage. On se sent.
C'est un bel arien,
Jason Clarke.
Oui. Jason Clarke, on sent qu'il ne veut pas l'humaniser et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de le montrer dans l'intimité, d'essayer de montrer qu'il joue avec ses enfants quand même, qu'il leur apprend la musique. Enfin, il y a une espèce comme ça
de volonté. C'est la faute de sa femme.
Et en plus, c'est évidemment la faute de sa femme. Non, mais ce que le film démontre, c'est que, enfin, il me semble que le livre disait que interroger la fiction par rapport à l'histoire. Et là, le film montre que, bah, justement, et alors encore une fois contre lui-même, mais démontre que l'histoire, c'est pas une fiction comme une autre, quoi. On peut pas la traiter comme un film de genre. Or, effectivement, il a traité ce film comme la French, quoi. Exactement pareil. Donc, ça marche pas, quoi.
H, le film, donc, sur Heydrich de Cédric Jiménez. Pas de réaction sur ce film. On parlait de sobriété. On peut en parler pour ce film de Gabriel Le Bomain qui s'appelle Nos Patriotes, que j'ai trouvé pour le coup, alors là, c'est exactement l'opposé en termes de. Il y a très peu d'effets, à mon avis, pas beaucoup de moyens, mais j'ai trouvé la presse cette semaine un peu dure pour ce film de Le Bomain, à qui on doit un premier long métrage sur les traumatisés de la Grande Guerre qui s'appelait Les Fragments d'Antonin. Et c'est avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamp, Loane Emera, un film qui retrace une histoire authentique et exemplaire. mais totalement méconnu, malgré un très beau roman qu'avait écrit, dont il s'est inspiré, qu'avait écrit Tierno Monnenembo, qui était le terroriste noir. C'est ainsi d'ailleurs que, pendant l'occupation, les Allemands surnommaient Adiba, qui était un jeune Guinéen, incorporé en 39 dans les tirailleurs sénégalais, qui a créé le premier maquis des Vosges, la Délivrance, qui a été arrêté fin 43 par la Gestapo, fusillé à Épinal, et il avait, à ce moment-là, 27 ans. Et, ironie de l'histoire, il a reçu la médaille de la résistance, mais à titre posthume, en 2003. Le film de Le Boma, donc, qui s'ouvre par une scène absolument atroce où les nazis mitraillent des prisonniers noirs pour un film de propagande, retrace donc cette vie tout à fait brève en s'attachant particulièrement à la période forestière du résistant Adiba, avec, je le disais, dans ce rôle titre, un acteur qui joue la sobriété. C'est l'anti-Jason Clarke, c'est-à-dire Marc Zynga. C'est un film qui dure 1h47. Sophie.
Oui, c'est une histoire vraiment très, très forte et très, très riche. D'abord parce qu'elle est réelle et puis parce qu'elle n'est pas connue, en effet. Donc, Gabriel Le Boma, il aime bien aller chercher dans les films d'histoire, comme ça, des histoires édifiantes. Et il y a une vertu pédagogique à ça et je pense qu'il n'est pas insensible à ça.
Il vient d'ailleurs du documentaire.
Il en a fait. Il a fait beaucoup de films sur la guerre, etc. Et alors, il a rajouté. Je pense qu'il raconte cette histoire avec beaucoup de vérité. Il a beaucoup travaillé à la fois sur le roman dont tu parlais, mais aussi sur les travaux qui ont été faits par un journaliste local des Vosges sur ce Adiba. Et il a pris les libertés, la liberté notamment de rajouter cet épisode effroyable. Des Allemands qui tirent à balles réelles qui est la scène d'ouverture, alors qu'Adiba n'a rien à voir avec ça en fait, hein, dans la véritable histoire. Mais je trouve qu'il a bien fait de parce que ça montre tout de suite le degré d'horreur, de barbarie de cette guerre, de racisme. Mais c'est pas un film sur le racisme, je trouve que c'est vraiment un film sur la solidarité avant tout, quoi.
Dans et
sur
la forêt, ils sont plutôt solidaires.
Il y a un problème quand il devient le chef du maquis. Ce qui est amusant, c'est que ce Français qui est, on ne peut plus français, qui va donner sa vie pour la France et qu'il répète, qu'il veut, qu'il aime la France, qu'il aime son pays et que la France est son pays, on le regarde quand même parfois un peu de travers parce qu'il est noir. Hein. Et en même temps, plein de personnages l'aiment pour ça aussi. Il est guinéen, bien sûr, oui. Qui est française à l'époque. Donc il est tout ce qu'il y a de plus français. Gabriel Le Boma montre surtout, du coup nous fait réfléchir aussi à notre société, montre surtout quand même la solidarité, l'apprentissage de ces hommes qui, de toute façon, durant la guerre, sont bien obligés de se souder et d'être... Mmh. Alors le problème peut-être du film, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il essaie de tenir en 2 heures. Et c'est vrai que parfois c'est écrit un peu à la comme je te pousse, les relations se nouent un peu vite entre les personnages, parce qu'il faut bien faire tenir tout ça, et que c'est, mais bon, ça a une vertu, encore une fois, d'exemple, exemplaire, qui est plus forte que
Eric.
Tout.
Éric,
il devrait y avoir une autre loi qui interdirait les films tirés d'une histoire vraie. C'est infernal. On étouffe sous ces faits réels. Mais cela dit, le timing est parfait. Sortir en même temps que HHH, du coup, ce petit film classique, gentillet, paraît tout à fait buvable.
Mais il n'est pas gentillet, ouais. Il est quand même...
Non, mais gentillet à voir, c'est quand même d'un classicisme...
Attends, c'est assez mouvant, la fin,
c'est
quand
sobre,
même.
Hein.
Sobre, oui, si tu veux. Ouais. Non, mais c'est pas mal fait. Personne ne connaissait cette histoire, enfin, à part toi, peut-être, Jérôme. Et on regarde ça, les acteurs sont bons... Les dialogues sont un petit peu surécrits. Hein. Tout le monde s'exprime dans un français impeccable. On dirait que c'est une institutrice en train de faire une dictée.
Tu rigoles, mais c'était aussi l'époque. Hein.
Tout le monde ne parlait pas comme ça. En tout cas, à l'époque, personne ne disait pas de soucis. Hein. Pourquoi pas ouais, grave,
oui,
pendant
gênant,
que vous y êtes. Et non, il y a la châtelaine qui ressemble un peu à Dominique Sanda. Et j'ai trouvé de qui était le sosie de la Donchamp, c'est Mathieu Carrière. Un mélange de Mathieu Carrière et de Willem Dafoe. Et il est très très bon dans ce film-là. En employé de préfecture qui entre dans la résistance. Et le film se regarde vraiment sans déplaisir, mais avec un peu un regard distrait, parce qu'on l'a vu 100 fois, et c'est quand même très plat comme filmage. Et le problème, vous parliez de l'accent allemand, désormais en France, quand on voit un officier nazi avec l'accent allemand, enfin le français avec l'accent allemand, moi je peux pas m'empêcher de penser à Karl Lagerfeld et de me dire qu'il l'aurait beaucoup mieux joué.
Xavier.
C'est pas sûr. Moi, je suis un peu comme Jérôme, j'ai pas compris l'acharnement de la presse cette semaine sur ce film.
Très violent, très violent.
Ne fait de mal à personne, ça quitte extrêmement bien de son projet qui est une reconstitution. Alors effectivement, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais on sent bien qu'il a rapproché les événements qui ne sont pas tous contemporains. Il raconte une histoire, il raconte un dessin, il raconte surtout l'histoire d'un homme de couleur, noir, enrôlé de force dans les tirailleurs sénégalais. Lui-même est guinéen, il est venu en France pour éviter de mourir, enfin pour éviter plutôt de perdre la vue, puisque c'est un médecin
français qu'il a rapatrié en France, dans son enfance, parce qu'il était atteint par un agent pathogène. Donc, il y a quand même l'histoire aussi de qu'est-ce qu'une nationalité, qu'est-ce qu'une patrie, finalement. Et c'est une vraie question que je trouve terriblement d'actualité, que Le Bouman ne traite jamais de manière didactique, mais de manière très subtile. Le personnage d'Alexandra Lamy, son mari lui dit dès le départ, d'ailleurs, elle est née en Allemagne. Elle est née alsacienne. Et il y a aussi un rapport à un autre pays, qui est le pays ennemi maintenant. Donc, les personnages sont quand même disposés de façon assez intelligente sur un échiquier comme ça géopolitique. Il y a son mari, Antoine Chappé, qui est formidable, qui est...
Même Louane est bien.
Oui, Antoine Chappé, qui vient de la guerre de 14-18, qui a sa médaille, et voilà, et qui a un rapport très ambigu aussi avec le monde de la résistance, avec tout ce qui se passe. Donc, effectivement, de temps en temps, Sophie a raison, peut-être que c'est un tout petit peu sec en termes d'articulation, dramaturgique, mais les personnages portent tous, j'allais dire, une ambiguïté, une dualité qui est extrêmement intéressante dans cette période-là. Tout le monde se regarde, il y a toujours une suspicion de trahison possible à travers les agissements de chacun. Donc, mine de rien, la complexité derrière la belle histoire, effectivement, de ce beau noir qui va prendre les armes pour la France, parce qu'il est un Français plus convaincu que certains Français blancs de souche, et ben derrière cette histoire-là, je trouve que toute la complexité de l'époque, elle est ajustée, elle est mise en place. Effectivement, il n'y a pas d'effet de grossissement, ni de la mise en scène, ni du scénario, mais tant mieux, ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et l'interprétation commune est absolument formidable, même Louane. Qu'on a entendu à la fin du clapiche d'ailleurs, je te rappelle que la chanson qui conclut, mais... ce qui nous lit, est interprétée par Louane, deux fois Louane cette semaine.
Elle ne chante plus du Sardou, c'est déjà une bonne chose. Michel.
Ne dis pas ça, ma mère est dans la salle, elle adore Michel Sardou.
Bonsoir madame.
Au crédit du film, effectivement, ça m'a fait connaître un épisode que je ne connaissais pas du tout. Et comme tu l'as dit, ça c'est très vrai. D'autre part, c'est la continuation d'un certain nombre de films. Tout ce problème des Africains du Nord, des Africains noirs, n'était jamais traité par le cinéma français. C'est vrai qu'on a vu Indigène, on a vu Vénus Noire, on a vu Chocolat. C'est-à-dire qu'il y a visiblement, de la part des cinéastes, des producteurs, etc., une envie aussi de montrer une certaine responsabilité de la France vis-à-vis des peuples colonisés. Ce que je trouve tout de même, c'est que c'est une forme tout de même extrêmement sage. Je trouvais son premier film, Les Fragments d'Antonin, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus novateur peut-être pas, mais en tout cas beaucoup plus très différent.
Sur les victimes psychiques.
Oui, mais là, on est tout de même dans une forme très assagie. C'est du bon cinéma de reconstitution historique qui est très bien fait.
J'aime beaucoup les comédiens.
Mais par contre, ce qui me paraît passionnant, mais qui n'est pas du tout traité, c'est comment un homme dont la famille, dont le peuple Peul, qui a été massacré, qui a subi tous les outrages de la colonisation, choisit, et c'est tout à son honneur, choisit la France plutôt que le nazisme. C'est un peu comme Gandhi. Malgré les appels d'Hitler, il a préféré prendre le parti de l'Angleterre, alors qu'il détestait l'Angleterre pour ce qu'elle avait fait à l'Inde. Mais néanmoins, il y avait des priorités. Il fallait défendre la démocratie plutôt que le nazisme. Et là, ce garçon, finalement, mais ça n'est jamais évoqué. Comment, en tant que noir, et ayant sûrement entendu parler des sévices que les noirs ont connus en Afrique noire avec la colonisation, malgré tout, courageusement, il prend position pour défendre la France. Ça, c'est un sujet peut-être qui aurait pu être abordé.
Nos Patriotes, c'est le film de Gabriel Le Bouman. Et moi, je vous conseille la lecture. Il vient de reparaître en collection de poche Point au Seuil, Le Terroriste Noir, de l'écrivain guinéen Thierno Monenembo. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans la salle? Non. Le jour d'après, qui était en compétition à Cannes, un film en noir et blanc du prolifique sud-coréen Hong Sang-soo, 21 films en 21 ans, au moins c'est clair. Et une jeune femme, Areum, est embauchée à Séoul dans une maison d'édition dont le patron, Bongwan, a eu une relation avec la femme qu'Areum, justement, remplace et qui a démissionné. L'épouse soupçonneuse, le mot est faible, de Bongwan débarque un jour dans les bureaux et elle gifle Areum, croyant qu'elle est la maîtresse de son mari. Évidemment, on ne va pas raconter l'épilogue.
Non, surtout pas.
Surtout pas. Non, je me tourne vers toi, Michel.
Qui oserait faire ça?
Personne.
Alors là, c'est un modèle, ça dure 1h30, un modèle de brièveté. C'est du Hong Sang-soo pur jus. Je n'ai pas encore invoqué Eric Rohmer, mais évidemment, on y pense beaucoup en voyant ce marivaudage coréen. Michel, puisque Je crois que tu as aimé ce film.
Ben oui, je pense que c'est le seul grand film de cette quinzaine. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très grand film d'un très grand cinéaste. C'est vrai qu'on pense à Romère, on peut penser aussi à Garrel, pas seulement à cause du noir et blanc, mais même dans ses rapports amoureux. C'est un film qui est sur les remords tardifs, sur des passions intempestives, l'infidélité, le dédoublement. Il y a même une perturbation du récit, parce qu'il y a des retours en arrière qui perturbent la dimension temporelle. Les acteurs sont absolument formidables. Il y a cette actrice Kim Min-hee qui a eu le prix d'interprétation à Berlin avec un autre film de Hong Sang-soo, parce qu'il en a fait trois dans l'année, qui est sa compagne dans la vie, et visiblement c'est assez autobiographique. Alors ce n'est pas comme Eric, je partage avec Eric, je suis horripilé par tirer d'une histoire vraie. Alors probablement ce film est tiré d'une histoire vraie, mais il le fait avec une grande élégance et une grande liberté.
Depuis le film de Polanski qu'on a vu à Cannes, c'est encore plus dur.
Mais vraiment, je trouve ce film est certainement un des meilleurs. Parce que Hong Sang-soo, bon, certains de nos confrères disent que c'est le plus grand cinéaste vivant, n'exagérons rien. C'est un cinéaste de très grand talent, mais inégal. Et ça, c'est vraiment, avec le film de Berlin qu'on verra plus tard dans l'année, c'est vraiment un de ses meilleurs films récents.
Xavier ?
Oui, ça fait 4 films qu'on aura eu le plaisir de découvrir de Hong Sang-soo cette année. Ça pourrait, j'allais dire, aller contre son aspiration, contre son renouvellement, pas du tout. J'ai l'impression qu'au contraire, ce côté très prolixe de son œuvre le pousse à encore plus de rigueur, plus d'inventivité, plus d'innovation. J'avais adoré celui qui était à Berlin et qu'on verra effectivement très prochainement, et celui-ci à Cannes. D'abord, ça a été quand même un moment de caresse, un moment de plaisir. C'est un film qui ne nous prenait pas de haut, qui ne nous cassait pas les doigts avec des petits marteaux moralisateurs. C'était un film d'une sérénité, c'était un film drôle. Il y a beaucoup d'humour. L'éruption de la femme outragée est extrêmement amusante. Il y a un côté vaudeville totalement assumé. Ce qui est très joli, c'est que c'est une histoire qu'on connaît
pas. Mais partie totalement bredouille du festival.
Oui, ben, vu ce qui est, à part le Campillo, vu ce qui a été récompensé, c'est plutôt presque un compliment qu'on peut lui faire. C'est un triangle amoureux. On a déjà vu ça 100 fois. Le mari, l'épouse, la maîtresse. Sauf que pour une fois, c'est raconté d'un personnage extérieur, celle qui va être prise pour la maîtresse.
Généralement, et la future maîtresse aussi.
Et peut-être la future maîtresse. Mais ah, Michel, on avait dit qu'on ne racontait pas.
Non, c'est pas la fin.
Ça n'est pas la fin.
En plus, c'est pas du tout la fin.
Non, ça n'est pas du tout la fin.
On va rentrer,
mais,
Michel.
On va garder les ambiguïtés, les effets
de surprise. Si on peut pas parler des films.
Mais voilà.
Si on peut pas parler de la fin des films.
Oh, bah alors, vraiment. Et je trouve ce changement de point de vue est vraiment une excellente idée, parce que ça apporte de la distance, ça apporte de l'ironie, ça apporte une espèce de naïveté et de candeur. Elle regarde cette histoire se faire dans laquelle elle va être incluse bien malgré elle, quand la bonne femme, l'épouse, va venir lui casser la gueule, parce que c'est quand même littéralement ce qui arrive. Et je trouve que, voilà, une fois encore, il fait le même cinéma, mais de manière totalement réinventée, différente, avec un souci de la mise en scène, une précision du cadre, de la direction d'acteur, du timing, alors que la plupart des dialogues sont improvisés. Non, c'est vraiment un grand cinéaste.
C'est pas un éloge de l'édition.
Ah, c'est une petite merveille, une pure petite merveille, ça. Il y a de la modestie, de la justesse, de l'humour, de la profondeur. Effectivement, le noir et blanc fait penser au Romère de Manu Chémaud, puisque la jeune employée croit en Dieu, lui n'y croit pas. Il y a un tas de discussions sur la foi. C'est toujours rigolo. Il y a une scène de début où la femme, pendant le petit déjeuner, demande à son mari s'il est en train de la tromper, et c'est une réussite complète. On voit la lâcheté des hommes, ce que c'est que l'enfer conjugal, et on voit aussi que, formidablement, dans l'édition coréenne, on en fiche encore moins que dans l'édition parisienne. Ça ne passe son temps qu'à déjeuner, à s'offrir des livres, à boire du soju, là, un alcool de riz. Et c'est un film très très beau en plus. Il y a, à un moment donné, on voit l'héroïne dans un taxi qui baisse sa vitre et qui voit la neige commencer à tomber sur la ville. C'est un film magnifique et devrait y avoir une loi qui obligerait les gens à aller voir ce film.
Sophie ?
Oui, c'est très beau. C'est un film extrêmement simple en apparence et en fait d'une complexité vertigineuse, je trouve, parce que effectivement la méthode de Hong Sang-soo consiste à faire des ellipses radicales qui fait que tout à coup c'est le jour d'après, ça se passe dans une journée, mais en fait à l'intérieur de ce présent il y a le passé, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça en télescopage permanent, et ça met le spectateur dans un état de tension et d'alerte qui fait que le récit n'en est pas du tout illisible, mais en revanche le spectateur doit un peu recomposer le récit, et ça c'est vraiment très beau. C'est un grand film quand même sur la vie, sur la petite jeune fille demande à l'éditeur pourquoi vous vivez, et c'est un film qui très modestement essaie de répondre à cette question. Pourquoi on vit ? Alors, c'est quand même pas rien.
Le jour d'après, qu'on vous conseille tous, c'est le film de Hong Sang-soo, qui a une poignée de secondes pour parler de Mommy, la énième Mommy d'Alex Gertman, avec Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, où là, Cruise, il est donc ce membre d'élite de l'armée américaine qui va localiser un bunker dans le désert irakien. Je n'ai pas envie de le résumer davantage par manque de temps en quelques secondes.
Mais c'est pathétique comme la fin de carrière de Tom Cruise. Il essaye encore une fois de plus d'avoir une franchise. Après Mission Impossible, Jack Reacher, Edge of Tomorrow, il s'offre encore l'espoir de pouvoir faire un film, puis deux, puis trois, puis quatre. Il sent qu'il n'a plus la cote, il sent qu'il n'est plus grand-chose auprès du jeune public. Et c'est pas la momie qui va le réconcilier avec ça. C'est consternant, c'est consternant.
Sophie. C'est épouvantable. Ils se sont mis à 6 pour écrire ça et c'est épouvantable. C'est un salmigondi de tout ce qu'on peut trouver qui marche comme ça, de genre. Il y a de l'archéologie, il y a des cloportes, il y a des résurrections, il y a une tempête de sable. Enfin, on a l'impression d'un
il rencontre le docteur Jekyll.
Oui, il y a le docteur Jekyll. Il y a aussi la romance et il y a aussi l'humour parce qu'ils essaient de faire de l'humour. Il y avait un film merveilleux qui s'appelait Night and Day que moi j'aimais beaucoup avec Tom Cruise et Cameron Diaz qui était hyper drôle.
Il y a 20 ans.
Il y a 5 ans. Mais ils essaient de trouver une ressuscité de ce couple-là et ça marche pas du tout parce qu'il essaie d'être drôle mais il est pas du tout drôle. Alors il joue de manière en plus assez benêt, comme un benêt et c'est très 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 ennuyeux. Il y a aucune identité à ce film en plus. Il essaie d'aller chercher tellement partout des choses qu'il y a aucune identité, il y a aucune originalité.
Michel.
Oui, de même qu'il y a une inflation en économie, il y a une inflation en art. C'est vraiment un film inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a un empilement. Alors on a envie dire, écoutez, arrêtez, parce que il n'arrête pas d'accumuler. Et c'est vrai que la momie, s'agit de momie. Hein, c'est pas la même chose que Xavier Dolan.
Oui. Parce
que c'est
momie.
Pareil, mais il y avait une série de films comme ça dans les années 30 à la Universal. Ensuite, ça a été repris par le cinéma anglais de Terence Fisher. Mais il y avait une certaine naïveté dans la façon de ces artisans qui faisaient ces films. Ils y croyaient d'une certaine façon. Là, c'est vraiment un pur produit.
Ouais,
et Tom Cruise, il faut reconnaître qu'il y a des moments, on rit dans la salle, tellement c'est ridicule. Il y a des séquences ridicules. Et alors, l'Irak, on introduit la guerre en Irak aussi. Évidemment, c'est une punition.
Attendons son film tourné à Paris. Hein. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre.
Mission Impossible 5,
oui,
6.
Mission Impossible 1. Donc, c'est la momie, c'est Kurtzman et c'est avec Tom Cruise. Et on termine un peu vite avec ce documentaire, le vénérable W. Et avec la voix de Bulogier, c'est le dernier volet de la trilogie du mal conçu par Barbet Schroeder après le général Amin Dada, après l'avocat de la terreur Jacques Vergès. Barbet est allé à la rencontre d'un moine bouddhiste qui est en fait un fou furieux. À Mandalay, Achin Viratu incarne donc tout, le racisme, l'islamophobie, le fanatisme nationaliste. C'est le leader du parti Mabba, Ta, qu'on surnomme là-bas le Ben Laden birman et qui veut éradiquer dans un pays à 90% bouddhiste les 5% de musulmans contre lesquels il dirige des actions très très dures, hein, punitives, puisqu'il y a même des meurtres, incendies, meurtres, etc. Et comme toujours dans sa méthode, Barba, ben, il montre sans juger comment en plus ce moine a une voix mielleuse, sirupeuse. Ah, c'est terrible. On a envie de le gifler, mais non, il bouge pas, l'autre. Il ajoute des images d'archives, évidemment, et des images de réseaux sociaux. On en sort quand même un peu glacé. Vous le conseillez ou pas, Eric ?
Je trouve que c'est le plus paresseux et le plus décevant de la trilogie. Parce que
paresseux pour
vous ? Il s'est pas fatigué. Il l'a pas beaucoup vu, d'ailleurs, le type, apparemment. Très peu par rapport à Amin Dada ou à Vergès, qu'on voyait raconter leur salade. Là, il le juge tout le temps, en plus.
Il le juge pas, justement.
Ah si, il y a une voix off, gnang, de Bulogier.
Mais il les laisse parler.
Il l'a pas assez vu. Il laisse parler un bouddhiste qui est contre lui. Il fait parler un journaliste anglo-saxon. On n'a pas besoin de ça. Et il y a plein de bandes d'actualité. Il n'a pas fichu grand-chose, là, Barbet Schroeder. Et j'ai trouvé le film très décevant. Et c'est un film de niche, hein, parce que le bouddhiste nazi, c'est quand même pas le truc le plus courant du monde. Ça, il l'a déniché, le gars. Mais je préfère les deux précédents qui étaient très, très forts. Et là, nous dire la haine ne sera pas vaincue par la haine, mais par l'amour. Merci, monsieur Schroeder.
Michel ?
Non, moi je trouve que c'est un film passionnant et tout à fait dans la lignée de ce que fait Schroeder. On lui reproche parfois justement de ne pas juger. C'est ça qui fait la force du film. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas besoin d'accabler son personnage. Tout est dit. Et c'est la médiocrité du personnage qui est frappante. C'est-à-dire que c'est un personnage d'une absolue médiocrité qui est en train de faire une extermination, un génocide. Et d'autant plus qu'effectivement, c'est en complète contradiction avec l'image qu'on a du bouddhisme. C'est ça qui est fascinant.
Et puis avec
fascinant.
La réalité de ce pays, 5% encore une fois des musulmans. 90% de bouddhistes.
Absolument. Donc Sophie. C'est un film à voir, vraiment un film formidable.
C'est un film vraiment intéressant. Enfin, moi, j'avoue, je connaissais rien à sa Rohingyas. Donc, c'est un film très passionnant. Après, là où Eric a un peu raison, c'est qu'il part sur une idée de portrait en laissant parler ce moine. On se laisse bercer par sa voix jusqu'au moment où il dit des choses énormes.
Oui,
genre, les humains sont comme des poissons chats qui s'entre-dévorent.
Au début, on y croit presque à
Et on se dit, mais j'ai bien entendu, là, ce que j'ai entendu. Et alors, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, il laisse un peu tomber ça. Et il est bien obligé de raconter, de faire l'enquête historique, quoi. Et du coup, le sujet se déplace un petit peu et se retourne un peu. Alors, le film est quand même éprouvant, hein.
Ah oui.
Éprouvant, parce que ça commence par la douceur.
Surtout ces scènes où on voit tous ces enfants.
Ah oui, ça termine par des carnages.
En robe safran, qui écoutent leur dieu. Avec
c'est un film difficile, exigeant, qui est d'autant plus éprouvant, me semble-t-il, qu'il est un peu hypnotique au début. Hein, donc, et il nous prend à rebours quand même avec ce film. C'est un film étonnamment fait. Hein.
Xavier ?
Non, je trouve que c'est un film redoutablement intelligent parce que d'abord, il laisse la personne parler. Donc, au bout d'un moment, comme elle n'est pas contrée, comme elle n'est pas contredite, elle se croit écoutée, elle se croit entendue. On pense même qu'en face de lui, quelqu'un est d'accord. Donc, le mec, il va effectivement avec les pires obscénités, mais sans changer de ton de voix.
Et avec un sourire.
Et avec un sourire dont il ne se départ jamais, ce qui est terriblement inquiétant. Après, les images d'archives, je trouve que c'est très fort parce que c'est aussi la manière dont ce type-là dissémine les pires choses. Il a des réseaux sociaux, il a un site à son nom, il manipule les images pour faire croire qu'effectivement les musulmans violent en série les jeunes filles birmanes et tout ça. Donc, franchement, non, je trouve qu'il a très bien circonscrit les différentes manières, le verbe, mais aussi l'image, dont ce type use pour pouvoir justement galvaniser les foules et les appeler au meurtre. La seule chose, le seul bémol que j'aurais, c'est qu'il minore énormément la responsabilité de Aung San Suu Kyi, qui est régulièrement sollicité justement
qui pour plaider la cause de ça.
Et qui dit non à chaque fois. C'est-à-dire que là, deux petites choses à la fin du film, mais elle est régulièrement sollicitée par les droits de l'homme qui lui disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas laisser faire ça, vous, un prix Nobel de la paix. » Et en gros, elle s'en fout parce que politiquement, c'est compliqué pour elle de le gérer et qu'elle préfère sa carrière politique pour l'instant au sort effectivement tragique des 5% de musulmans dans son pays. J'aurais bien aimé justement qu'il aille jusqu'au bout de sa démonstration et qu'il l'inclue dedans.
Le Vénérable W, c'est signé Barbet Schroeder. Allez, un conseil vite pour terminer cette émission. Sophie.
Voulou, un film formidable sur le Mali, qui se passe au Mali, de Daouda Koulibaly avec Ibrahim Koma. Et c'est un film qui est extraordinaire, secret, très, et en même temps qui est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, mais planqué sous un film de genre, et aussi en vitesse, Le Grand Méchant Renard, qui est un très très beau film d'animation.
Ouais, génial.
Le conseil de Michel.
Alors moi, c'est un livre aux éditions de la Table Ronde, c'est-à-dire des entretiens de Jacques Chancel.
Ah oui, avec les cinéastes.
Chabrol, Malle, Lelouch, Melville, Truffaut. Et c'est passionnant parce que Chancel, c'est ni un entretien comme on pourrait le trouver dans une revue de cinéma qui parle de la mise en scène, de la forme, de la photo, etc. Pas du tout, c'est pas son domaine. C'est pas non plus l'entretien potinage qu'on peut trouver dans une certaine presse. C'est au contraire des entretiens où frontalement, il pose des questions, même parfois indiscrètes, mais pas trop, mais qui permettent aux gens de s'exprimer et de répondre sur les femmes, sur l'argent, sur la carrière, etc.
Et ils ne leur posent jamais la question, et Dieu dans tout ça.
Et je voudrais signaler très brièvement Le Retour à Montauk de Schlondorf avec deux grands acteurs, un film mélancolique, très classique, intemporel, et ça fait du bien.
Le conseil d'Éric.
Anna, mon amour, du roumain Kalin Peter Netzer. C'est superbe. C'est 7 ans de l'histoire d'un couple qui s'est rencontré à la faculté de lettres.
Mais aimer le cinéma roumain maintenant.
Ah, moi, c'est pas nouveau. Hein. Et c'est magnifique, très bavard, effectivement, parce que la fille est complètement instable, elle est belle comme tout, et le type est déboussolé. Et ces scènes de la vie conjugale à Bucarest, il faut vraiment aller voir cette chose-là.
Le conseil de Xavier.
La reprise en salle et en coffret DVD de 4 films de Derek Jarman, cinéaste de la fin des années 80, très esthète, très queer, très engagé, très politique. Et on lui doit donc 4 films, entre autres magnifiques, qui ressortent là, Sébastien, Jubilee, Last of England et La Tempête. Mais on lui doit surtout d'avoir découvert Tilda Swinton. Voilà. Et rien que pour ça, ce sera le plus grand cinéaste du monde entier pour tous les films. Voilà. Je suis extrêmement fidèle à Tilda. Elle ne le sait pas, mais un jour elle le saura.
C'est ta loi de ce soir, Eric, c'est loi.
C'est ta loi.
Oui, voilà. Plus un film sans Tilda Swinton.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume. franceinter.fr. Merci Sophie Avon, Michel Simon, Xavier Le Herpeur, Eric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Carcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir au Charles Trenet, À la technique, on les remercie Olivier Dupré, Fabien Capel, Emmanuel Armingue. La réalisation était signée Didier Lagarde et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, ce sera le jeudi 29 juin. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée aux livres de l'été, l'autre aux films de l'été. Et la semaine prochaine, on parlera de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.